lundi au vendredi, on en parle 8h35 sur la première.
Ce matin, Pauline Zeitterlein, cet atelier, il est consacré à la gélification végétale et à l'art de l'agar-agar.
Et oui, l'art de l'agar-agar, parce que franchement, c'est un art. Vous avez sûrement remarqué que les gélifiants végétaux comme l'agar-agar, la pectine ou le konjac remplacent souvent la traditionnelle gélatine issue du collagène présent dans la peau et les os des animaux. Et dans les recettes de pâtisserie et dans la liste des ingrédients des produits industriels, on trouve donc de plus en plus de ces gélifiants végétaux en raison notamment du régime vegan.
Donc pour les véganes, tous ceux qui excluent le porc de leur régime en raison de leur religion, c'est ok, c'est bon?
Oui. En fait, le déclin de la gélatine dans l'industrie alimentaire date même un petit peu d'avant. C'était dans les années 90. On suspectait alors la gélatine d'être un vecteur de l'encéphalopathie spongiforme bovine, la vache folle. Et donc, on a commencé à plus découvrir ces gélifiants végétaux, souvent considérés vraiment comme des alternatives à la gélatine. Et c'est parfois frustrant parce que c'est pas si facile ou possible de remplacer parfaitement la gélatine par un gélifiant végétal. Peut-être que notre invité me démentira sur ce point. Mais je pense en tout cas qu'il vaudrait mieux voir l'agar-agar comme un super produit gélifiant plutôt que simplement comme une doublure végétale à la gélatine, parce que ça pousse à s'attendre à avoir exactement le même résultat, mais c'est pas toujours exactement la même chose.
Alors ne parlons plus de gélatine et abordons l'art de l'usage de l'agar-agar avec notre invité Gabriel Serrero. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Vous êtes passionné de cuisine moléculaire, spécialiste des gélifiants et fondateur d'Emotion Food Company. Ce matin, vous venez avec une recette qui titille notre curiosité. C'est un nougat de fromage de chèvre. Mais avant d'y goûter, faisons le point sur ces gélifiants végétaux. Quels sont les principaux ?
Alors, sur les gélifiants végétaux, vous avez les agars, agar-agar, les pectines, le konjac, les alginates, les carrageenan, le caroube.
Attendez, on reprend depuis le début. Agar-agar, donc ça c'est celui qu'on trouve beaucoup, c'est à base d'une algue. Hein,
c'est une algue rouge, exactement.
La pectine.
La pectine, c'est issu des noyaux de la pomme, du coin, tout ce qui contenu dans la graine des fruits ou légumes.
Et dans l'écorce des oranges aussi.
Exactement.
Beaucoup, hein, dans des agrumes. Konjac.
Le konjac, c'est un rhizome, c'est une racine qu'on utilise pour ses pouvoirs gélifiants et puis aussi comme coupe-faim dans le monde du régime.
D'accord. Carrageenan. Alors celui-là, on le connaît.
Les carrageenan, ça c'est aussi deux gélifiants végétaux qui, il y a le iota et le kappa. Un va amener la souplesse, l'autre va amener de la fermeté. Donc en général, ils sont combinés et on utilise ça beaucoup dans l'industrie, dans le monde des produits laitiers.
Et je crois que c'est quand même aussi quelque chose qui est issu des algues.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait,
c'est et aussi on peut avoir un tout petit problème de digestion, si j'ai bien compris, ou ça peut être un petit peu délicat pour l'estomac, mais sinon c'est aussi quelque chose d'assez naturel.
Alors c'est surtout la quantité, la manière dont on l'utilise. Il y a des études sur certains rats qui ont montré que c'était plus compliqué. Donc c'est un de
quoi,
ces gélifiants. Non, c'est un des gélifiants qui a des suspicions d'être en grande quantité mal toléré. Donc on a tendance à le retirer des étiquettes dans l'industrie.
Caroube.
La caroube, c'est un peu comme un plant de haricot coco avec dedans des graines qui... Alors la caroube n'est pas vraiment un gélifiant, c'est un épaississant.
D'accord.
Il va avoir une fonction épaississante et puis comme beaucoup de ces épaississants et gélifiants, lorsque vous mélangez certains épaississants entre eux, ils deviennent gélifiants.
Vous êtes un grand spécialiste de ces ingrédients puisque vous avez créé avec votre entreprise une solution, enfin si vous voulez un produit qui permet de texturer l'alimentation pour les personnes qui ont des problèmes physiologiques à déglutir.
Exact. Emotion Food Company, c'est trouver des solutions pour gérer la texture pour les gens qui ne peuvent plus mâcher ou avaler. Donc, lorsque vous avez de la dysphagie, trouble de la déglutition, vous devez avoir une texture de type purée. Seulement, la purée n'est pas appétante, ne donne pas envie de manger. Et puis, le mélange de gélifiants qu'on a développé permet de redonner la forme sans impacter le produit d'origine.
On va maintenant resserrer sur cette agar-agar parce qu'on le trouve dans les commerces oui. et que pour les gens qui nous écoutent et qui auraient envie de remplacer la gélatine mm-hmm. ou simplement gélifier autrement avec l'agar-agar, eh bien c'est facile, on en trouve un peu partout sous forme de poudre. Le béaba de l'utilisation de l'agar-agar, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça s'utilise entre 5 et 10 % entre 1 et 5 % non, sinon ça fait de la gomme. Hein. Ce gélifiant, il va avoir, on appelle ça un hydrocolloïde, il va travailler sur l'eau qui est contenue dans le produit. Donc on va gélifier l'eau qui est à l'intérieur de la préparation. Et en fonction de la quantité, on va avoir des choses plus ou moins fermes, plus ou moins dures. La difficulté, l'inconvénient de l'agar-agar, c'est qu'il va faire des gels fermes et cassants.
Si on prend l'exemple. Et pas fondant comme.
Pardon?
Et pas fondant comme.
Et pas fondant comme une gélatine qui, elle, va fondre à température du corps. Ici, l'agar-agar, il va supporter des températures jusqu'à 80, voire 90 degrés dans certains cas.
Ou alors, il faut qu'on ait une sacrée grosse fièvre pour que ça fonde dans la bouche, quoi.
Exactement. Et puis, on va avoir un avantage, c'est qu'on va pouvoir réchauffer cette préparation. Mm-hmm. Par exemple, dans certains milieux, c'est utilisé pour gélifier les soupes, pour le transport, pour éviter qu'il y en ait un petit peu partout. Mm. Donc, on gélifie la soupe et puis quand on la met au micro-ondes pour la réchauffer, elle refond et puis on évite d'en mettre partout pendant le transport.
On parlait du béaba, donc comment on prépare ? Est-ce qu'on doit le diluer dans une préparation qui est déjà chaude, la poudre ou comment
Alors, c'est un gélifiant qui s'active par la température. Donc, vous devez monter au-dessus de 80, qui est son point de fonte. En général, on parle d'ébullition. Et puis, laisser refroidir la préparation.
Est-ce que tous ces sachets d'agar-agar se valent ? Tout ce qu'on trouve dans le commerce ?
Non, parce que vous avez plusieurs dizaines, voire plus, de variétés de types d'agar-agar et de qualités.
Ah.
Et en fonction des qualités et des variétés, vous allez avoir des gels plus ou moins fermes, plus ou moins durs. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas encore de description précise sur ce qu'on trouve dans le commerce.
Ouais, mais vous, quand vous allez dans un magasin, que vous pointez votre sachet d'agar-agar, vous dites « Ah, celui-là, je ne vais pas l'acheter. Pourquoi ?»
C'est pas indiqué. Vous pourrez pas le savoir parce que vous avez pas le détail du type d'agar-agar. Vous aurez que l'appellation agar-agar. Moi, j'ai dans ma préparation de gélifiant pour les personnes âgées, j'ai des agar-agar, mais j'ai aussi d'autres produits qui viennent lisser les inconvénients de l'agar-agar. Donc j'ai choisi un certain type plus une addition d'autres pour arriver à la bonne texture.
Donc celui que vous achetez d'habitude, le jour où il n'est plus disponible, vous devrez refaire vos tests pour être sûr de tomber
oui,
sur le bon.
Vous devez réadapter la recette. Oui.
Mais ça veut dire que monsieur, madame, tout le monde qui veut utiliser de l'agar-agar doit aussi faire des tests, peut-être avant de se lancer dans une recette ?
Oui, en même temps, vous l'utilisez entre 0,5 et 1%. Et puis, en fonction du résultat que vous avez, si vous trouvez que la texture est trop dure, vous diminuez de 20% votre quantité d'agar. C'est assez simple à tester. Donc, si on a l'impression que notre gel est trop dur, on peut faire refondre la préparation en rajoutant un peu plus de liquide. On va diluer comme ça la quantité d'agar, puis avoir au refroidissement un gel plus tendre.
Moi, je suis pas très douée avec les chiffres. Quand vous dites 0,5 à 1%, c'est ça, hein, vous nous disiez ? L'utilisation de l'agar-agar.
Oui, tout à fait. Vous mettez entre 5 grammes et 10 grammes par kilo.
D'accord.
Voilà. Okay.
Moi, j'avais une cuillère à café rase pour 50 centilitres de liquide. Alors, bon, j'ai pas pesé. C'est vrai que ça commence à être compliqué de devoir peser des si petites quantités.
Alors, c'est la particularité de ce type de gélifiant, c'est que vous êtes dans de la précision. Si vous mettez 0,5 g de trop, vous avez un résultat totalement différent.
Ouais.
Acheter des balances de précision, hein, ça se trouve aujourd'hui assez facilement pour quelques dizaines de francs. Juste pour avoir un petit peu de précision si on veut travailler avec ce type de gélifiant.
Et on peut peut-être dire qu'on mettre un peu moins. C'est peut-être toujours mieux qu'un peu trop.
Exactement. On peut toujours rajouter. L'avantage de l'agar, c'est qu'il est thermoréversible. C'est que vous pouvez le gélifier, le refondre, le gélifier, le refondre et ainsi de suite.
Alors, vous nous avez préparé, on n'a pas fait d'atelier en studio aujourd'hui, mais par contre, vous nous avez préparé une recette.
Oui.
J'aimerais que vous nous expliquiez comment on réalise ce nougat. C'est vraiment hyper joli. N'est-ce pas, Théo?
Oui.
Je vous montre, hein, vous allez commenter l'aspect puisque vous ne voulez pas goûter au fromage de chèvre.
C'est à allure, ça ressemble, ça a bonne façon, comme on dit ça. Ça ressemble à du nougat. Ouais.
Petit nougat de fromage de chèvre. Donc la recette, Gabriel Serrero, si vous êtes d'accord.
Alors oui, alors si on prend 500 grammes de fromage de chèvre, on peut prendre une bûche de chèvre par exemple, avec 500 grammes de lait. Et puis, on va rajouter ici 5 grammes d'agar-agar parce qu'on va l'utiliser à froid. Attention, la quantité d'usage à froid et à chaud n'est pas la même. Dans ce nougat-là, j'ai rajouté des morceaux de noisettes, de noix, pardon, et des grains de grenade. Donc, vous utilisez ça comme base pour faire une terrine de fromage ou de légumes. Vous mettez tout dans votre casserole, vous portez à ébullition, vous mixez et puis vous coulez dans les moules. Et si vous voulez rajouter des inclusions, juste avant de couler dans le moule, vous rajoutez vos morceaux de noix et de grenade, vous mélangez et puis vous laissez refroidir et vous avez votre nougat.
Nous avons Mathilde Pelletier en studio pour déguster.
Attachée de production.
Notre attachée de production. Alors, qu'est-ce que vous en dites, ce nougat?
Moi, je trouve ça assez génial. Je suis en train de me dire, on aura la recette. Hein. Mm-hmm. C'est juste, je pense.
Elle est déjà sur le site.
Mais parfait. C'est pas moi qui la mets, donc c'est tout bon. Mais franchement, je suis assez surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus dur, parce que j'ai cette idée du nougat plus dur,
oui.
Justement. Et en fait, je trouve ça assez super. Je vois le truc parfait en apéro avec des petits cure-dents dedans. Voilà, très bon.
Alors, pour arriver à cette texture-là qui est très tendre, j'ai utilisé mon gélifiant. Mais avec l'agar, vous pouvez aussi arriver à ce même résultat ou presque. Parce que l'agar-agar pur vous donnera quelque chose d'un petit peu plus cassant.
D'accord.
Mais ça fonctionne quand même.
Très bien.
Donc la recette est sur la page d'On en parle. On peut imaginer d'autres choses. Là, vous avez mis noix et grenade, mais on pourrait imaginer des fruits secs, par exemple.
Oui, oui. Et puis, on pourrait remplacer le fromage par de l'asperge mixée, par exemple, ou de la tomate, de l'olive. Ça ouvre le champ des possibles sur n'importe quel produit vegan ou 100% végétal. Puisque vous pouvez sortir du monde du fromage et aller dans le fruits et légumes.
Aucun aliment n'inverse l'effet de l'agar-agar, cet effet gélifiant.
Non, vous avez...
Les agrumes,
dans 98% des cas, vous n'avez pas de problème de gélification. Vous avez, comme dans tout, quelques exceptions, notamment certains enzymes. Si je prends l'exemple du cassis... Le cassis va poser problème parce qu'il y a certaines enzymes. Après, on peut contourner cette problématique en chauffant les préparations avant de les gélifier.
Gabriel Serrero, vous pouvez nous raconter une des fois où ça n'a pas pris, où ça ne marche pas ?
Oui, oui, oui. Typiquement, si vous avez une balance qui manque de précision et que vous sous-dosez votre préparation ou que vous ne portez pas correctement à ébullition votre mélange, la prise en gel ne se fera pas.
Donc on rappelle que cette recette de nougat de fromage de chèvre et de noisette est sur notre site et puis que vous pouvez évidemment la modifier en mettant par exemple des petits morceaux de lardons dedans pour donner aussi un autre goût. Enfin, il y a beaucoup de manières d'être créatif avec l'agar-agar et plein de terrines aussi, et les recettes courent sur le net. Il y a aussi une recette qui est sympathique pour les parents qui ont des petits bébés, pour leur donner une activité un peu manuelle. C'est par exemple de gélifier des petits objets voyez, vous avez des petits jouets en plastique. Uh-huh. Mais regardez pas comme ça, Théo.
Quel intérêt de jellifier des jouets en plastique?
Ben, non, mais vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas comprendre. Vous prenez un moule, vous mettez les petits jouets en plastique, vous mettez dedans une solution, ça peut être un sirop, simplement de l'eau gélifiée à la agar-agar. Uh-huh. Et en fait, l'enfant va devoir aller avec ses petits doigts gratter, toucher, papouter dans cet agar-agar gélifié pour aller retrouver ses petits jouets en plastique. Et c'est une activité qui développe plein de sens.
Présenté comme ça, je comprends.
Voilà, c'est une idée. Pourquoi pas aussi, hein. Si jamais vous voulez déjà faire des tests, voir un peu comment ça gélifie, bah, au lieu que ça ne serve à rien, vous pouvez par exemple faire ce genre de petits jouets. Puis peut-être pour les adultes, c'est aussi amusant, je ne sais pas.
Pour revenir à la recette, Gabriel Serrero, donc je rappelle que vous êtes passionné de cuisine moléculaire, spécialiste des gélifiants et fondateur d'Emotion Food Company. Pour revenir à cette recette, à quoi il faut faire attention ?
Simplement à bien porter à ébullition votre mélange au dosage de l'agar-agar. Mmh. Et puis de ne pas sous-estimer la quantité de liquide que vous devez rajouter. Donc ça va fonctionner avec l'eau. Oui. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un produit qui contient suffisamment d'eau. Exemple, une tomate. Vous n'avez pas rajouté d'eau. Dans un fromage de chèvre, j'ai rajouté 50% de lait qui va faire vecteur d'eau et qui va permettre cette gélification. Donc, il faut avoir suffisamment d'eau dans la préparation.
Si on prévoit de les servir en apéro pour 11h30 dimanche, quand est-ce qu'il faut commencer ?
C'est assez stable comme produit. Vous pouvez faire ça 3-4 jours avant sans trop de difficultés.
Et surtout, ne jamais le congeler.
Non. Alors, vous pouvez, si vous cherchez à faire une figure de style, mais vous allez avoir une texture de type éponge.
Ah ouais, non. Donc, l'éponge de fromage de chèvre, c'est moins appétissant.
Comme ça travaille avec l'eau, bah, l'eau va congeler et puis va tailler la chaîne de gel et va vous enlever cet effet homogène qu'on peut obtenir avec la gare.
Et combien de temps ça se conserve ensuite, une fois que c'est fait ?
Vous pouvez le congeler, vous pouvez le garder 3-4 jours, jusqu'à 5 jours à la maison.
Au frigo.
Au frigo, sans trop de problèmes.
Parce que sinon, vous savez que aussi l'agar-agar est utilisé pour le développement des microbes dans les recherches de laboratoire. Hein. Donc c'est une bonne surface pour le développement de certains champignons, de bactéries. Donc peut-être qu'éviter de le mettre à l'extérieur du frigo.
Pour faire un atelier biologie. Excellent. Oui. Merci beaucoup Gabriel Serrero. Vous êtes fondateur d'Emotion Food Company, spécialiste de la gélification et puis passionné de cuisine moléculaire. Vous répondiez à l'invitation de Pauline Saïterlet.